VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec et Eric Manirakidza. Bienvenue dans cette édition du vendredi 13 mai 2016. Au sommaire ce soir, Morgane.
François Hollande en visite en République centrafricaine. Il est arrivé à Bangui cet après-midi pour quelques heures.
Rafle au Burundi, une centaine de personnes ont été arrêtées ce matin à Bujumbura.
Les journalistes camerounais en grève contre le Premier ministre.
Nous vivons une situation difficile avec l'interdiction des exercices pour beaucoup de journalistes.
Denis Kouibo, président du syndicat national des journalistes du Cameroun.
Échec de l'opération Sophia de l'Union européenne pour décourager l'afflux des migrants.
Ce qu'on a pu faire maintenant, ce n'est pas beaucoup, car c'est normal que pour lutter contre les trafiquants ou les passeurs, il faut intervenir dans les zones territoriales libyennes.
Flavio Di Giacomo, porte-parole de l'Organisation internationale des migrants à Rome, en Italie.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
François Hollande en visite en République centrafricaine. Le président français est arrivé à Bangui cet après-midi pour quelques heures. Escale au cours de laquelle il devait aborder avec le nouveau régime la question de la reconstruction d'un pays ruiné et du désengagement des troupes françaises. On retrouve sur place Freeman Sipila, notre correspondant à Bangui. Bonsoir.
Bonsoir Morgane Guiriec, bonsoir Eric.
Alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui s'est passé durant cette visite?
Justement, pour l'instant, là où je vous parle, je suis à l'aéroport international du Bangui-Poko, là où l'avion du président français va décoller d'ici quelques minutes. Pour l'instant, le président François Hollande s'entretient encore avec les militaires français engagés en Centrafrique dans le cadre de l'opération Sangaris. Il est arrivé à Bangui cet après-midi à 14h30, heure de Bangui, 13h30, temps universel. Le président français s'est donc entretenu avec le président centrafricain, d'abord dans un tête-à-tête au siège de la présidence centrafricaine. Ensuite, il s'est donc entretenu avec tous les membres du gouvernement dans un entretien élargi. Par la suite, le président français et le président centrafricain se sont donc exprimés à la presse. Le président français a donc rappelé que le but de sa visite en Centrafrique, c'est justement dans le cadre de la fin de l'opération Sangaris prévue la fin de cette année. Il a donc réitéré l'engagement de la France aux côtés de la République centrafricaine. Il a dit la France restera toujours aux côtés de la République centrafricaine pour soutenir le pays dans le cadre de la formation des militaires centrafricains, dans le cadre du relèvement de l'économie. Et le président centrafricain a aussi exprimé sa gratitude à la France en remettant une distinction honorifique, la plus haute distinction honorifique du pays, au président français François Hollande.
Ok, merci beaucoup Freeman Sipila. Donc c'était notre correspondant à Bangui.
Rafle au Burundi, une centaine de personnes ont été arrêtées ce matin dans le quartier contestataire de Musaga à Bujumbura. Des dizaines d'autres ont été arrêtées dans la commune de Mugamba, dans la province de Bururi.
En République démocratique du Congo, la police a usé de gaz lacrymogène pour disperser des milliers de partisans de Moïse Katumbi à Lubumbashi. L'opposant est visé par une enquête judiciaire pour recrutement de mercenaires.
Par ailleurs, Morgane, le G7, le Front citoyen de la dynamique de l'opposition, annonce une marche le 26 mai sur toute l'étendue de la RDC pour protester contre l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 70 de la Constitution. On écoute un extrait de cette déclaration lue par le député national Albert Pouella, le modérateur de la dynamique.
La dynamique de l'opposition, les G7 et le Front citoyen rappellent à tous les Congolais, y compris aux 9 juges de la Cour constitutionnelle, que l'article 73 de la Constitution dispose. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Fin de citation. De plus, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, Le président de la République entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. C'est pourquoi la dynamique de l'opposition, les G7 et le Front citoyen lancent un vibrant appel à toutes les forces vives de la nation pour une mobilisation générale en vue du respect de la Constitution, l'organisation des élections dans les délais constitutionnels et partant sauver la démocratie.
C'était donc Albert Pouella, le modérateur de La Dynamique. C'est dans ce contexte de tension que Londres et ses partenaires européens envisagent des sanctions ciblées contre des responsables d'actes de répression politique. Tel est l'avertissement lancé à Kinshasa par l'envoyé spécial de la Grande-Bretagne pour la région des Grands Lacs, Dana Dolak.
Au Burkina Faso, Alain-Édouard Traoré est sorti de prison à Ouagadougou, ministre porte-parole du dernier gouvernement du président Blaise Compaoré. Il a passé 6 mois en détention provisoire. Il est soupçonné de détournement de fonds publics et d'enrichissement illicite. Mais le juge n'a pas renouvelé le mandat de dépôt arrivé à expiration depuis le 3 mai.
Au Niger, les élections municipales se tiendront le 8 janvier 2017. Après deux reports, la CENI a estimé que le 10 juillet tombe en pleine saison des pluies. Le Parlement a voté fin avril une loi pour prolonger de 6 mois les mandats de 5 ans des élus locaux.
Un tribunal sud-africain a donné son feu vert à un recours collectif de la part de milliers de mineurs d'or qui ont contracté la silicose et de leur famille contre une trentaine de compagnies minières en vue d'obtenir des dédommagements. Les précisions d'Idrissa Seydoudia.
Le juge Phineas Mojapolo a estimé devant la Haute Cour de Johannesburg que les mineurs n'avaient pas les moyens à titre individuel de poursuivre les géants miniers. L'industrie de l'or a abandonné des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de travailleurs qui ont contracté la silicose et la tuberculose, a ajouté le juge. La décision du tribunal permet à des milliers de mineurs en exercice ou à la retraite de poursuivre une trentaine de sociétés pour obtenir des dédommagements. La silicose est provoquée par l'inhalation des poussières de silice des mines. Elle peut rester dormante pendant plusieurs années avant d'affecter les poumons de manière irréversible. Le seul traitement connu est la greffe pulmonaire.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, le Hezbollah a annoncé la mort de son chef militaire en Syrie, Mustafa Badreddin, l'un des 5 membres du mouvement chiite accusé du meurtre de Rafik Hariri, l'ancien premier ministre libanais. Idriss Fall.
S'en allant à la guerre, Mustafa Badreddin avait dit, comme par prémonition, « Je ne reviendrai pas de Syrie sauf en martyr ou en portant le drapeau de la victoire ». Le Hezbollah a déclaré que son commandant en chef, âgé d'environ 55 ans, est mort dans une grande explosion près de l'aéroport de Damas. La faction chiite libanaise, ennemie jurée d'Israël, dit enquêter sur l'origine de l'explosion qui pourrait être une frappe aérienne, un missile ou un tir d'artillerie. Badreddin était en Syrie pour appuyer le président Bachar al-Assad contre les rebelles. Sa mort fait perdre au groupe de Hassan Nasrallah l'un des plus importants leaders depuis la mort en 2008 de Imad Mughniyeh, son ancien chef militaire. D'ailleurs, Badreddin sera enterré à ses côtés à Gobeiri, dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Le tribunal spécial pour le Liban avait lancé un mandat d'arrêt contre Badreddin, qualifié de cerveau dans l'assassinat en 2005 de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri, un sunnite. Le Hezbollah avait rejeté toute paternité dans l'attentat et exclu la remise du suspect à la justice.
8 soldats ont été tués et 8 autres blessés ce vendredi dans des opérations contre le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, dans la province de Hakkari, dans le sud-est à majorité kurde de la Turquie. C'est ce qu'a annoncé l'état-major turc.
Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, amorce samedi un nouveau tour du monde dans le Golfe, l'Europe et l'Asie du Sud, du Sud-Est, avec comme point d'orgue des réunions multilatérales à Vienne sur la Syrie et la Libye, annoncées vendredi mardi aujourd'hui le département d'État et le secrétaire d'État doivent ensuite se rendre le 22 mai en Birmanie pour exprimer une nouvelle fois l'appui de Washington à la transition démocratique dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Il se joindra jusqu'au 25 mai au président Obama au Vietnam. Une visite d'importance entre deux anciens pays ennemis en plein rapprochement. L'Asie Pacifique est la priorité de Washington, selon les termes du désormais fameux pivot ou rééquilibrage de l'Amérique vers cette région où la Chine fait la démonstration de sa puissance.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco.
La Société africaine de plantation DVA en Côte d'Ivoire affiche une perte de 1779 milliards de francs CFA au terme de l'exercice 2015, rapporte l'APA. Son chiffre d'affaires s'est établi à 97 949 milliards de francs CFA contre 99 611 milliards en 2014. Sa capacité d'autofinancement est en forte hausse, passant de 1805 milliards à 5308 milliards. Et son niveau d'emprunt a été réduit de moitié. L'association Africa France organise ce vendredi à Paris un événement sur le leadership féminin, indique Financial Afrique. La rencontre rassemble notamment des femmes du monde, des start-up, de la finance et du conseil. Africa France est co-présidée par Lionel Zinsou, ancien premier ministre du Bénin, et Stéphane Richard, président directeur général d'Orange. Malgré le ralentissement de son économie, l'Afrique du Sud reste le pays le plus attractif du continent. Selon Ernst & Young, le Maroc est le deuxième pays le plus attractif, suivi par l'Égypte, le Kenya, l'île Maurice, le Ghana, le Botswana, la Tunisie, le Rwanda et la Côte d'Ivoire. Le Nigeria n'arrive qu'à la 15e position. L'Afrique du Sud doit son rang à ses bonnes performances dans les domaines de la gouvernance, de la diversification économique, des infrastructures, des opportunités d'affaires et du développement humain.
C'est votre page sportive qui commence. La chronique est signée aujourd'hui Timothée Donangmaï. Bonsoir Tim.
Bonsoir Eric.
Ouvrons cette page d'espoir avec la toute première secrétaire générale de la FIFA.
La nomination de la Sénégalaise Fatma Samoura a été annoncée au 66e congrès de la Fédération internationale qui se tient à Mexico. Diplomate aux Nations Unies depuis 21 ans, Madame Samoura, qui est âgée de 54 ans, a occupé différents postes dans plusieurs pays d'Afrique.
De son côté, le Canadien Victor Montagliani a été élu président de la CONCACAF. C'est la Confédération de football d'Amérique du Nord, du Centre et la Caraïbe Team.
Président de la Fédération canadienne de football, Montagliani, a défait Larry Mousseden des Bermudes. C'est le troisième président que se donne la CONCACAF en l'espace d'un an, Eric. C'est une conséquence du scandale de corruption qui a secoué la FIFA et dans lequel nombre des dirigeants passés et en fonction de cette confédération avaient trempé.
Et puis Tim, un mot sur les adieux de Zlatan Ibrahimovic au Paris Saint-Germain.
« Je suis venu comme un roi, je repars comme une légende », a annoncé le Suédois sur Twitter ce vendredi. C'est un moment un peu triste. On est en train de vivre les derniers instants du plus grand joueur de Ligue 1 de ces dernières années, a commenté son entraîneur Laurent Blanc. Où Ibrahimovic va-t-il poser ses valises après Paris? Son agent Mino Raiola assure que les propositions affluent de partout, y compris de la Chine ou certains médias, parle d'un contrat global de 75 millions d'euros.
Passons à l'athlétisme maintenant, Tim. Les athlètes kényans restent éligibles à participer aux compétitions au niveau national et régional malgré l'avis négatif de l'Agence mondiale antidopage.
L'agence a fait savoir jeudi que le Kenya n'était pas en conformité avec son code antidopage, remettant en cause la participation de ses athlètes aux prochains Jeux olympiques de Rio. Toutefois, l'IAAF, la Fédération internationale, a indiqué que la décision finale concernant ces Jeux relève du Comité international olympique à qui l'Agence mondiale antidopage vient de transmettre sa décision concernant le Kenya.
Terminons par les playoffs de la NBA Team, le championnat nord-américain de basketball professionnel.
Et oui, Eric, Oklahoma City s'est qualifié pour la finale de la conférence Ouest en battant hier soir San Antonio 113 à 99 pour remporter leur série par 4 victoires contre 2. Ce soir, Toronto pourrait décrocher l'autre billet de la finale Ouest face à Miami. Le club canadien mène par 3-2, mais Miami peut compter sur son public pour établir l'équilibre et forcer un 7e match.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Eric Manirakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Morgane, le Cameroun.
La tension est vive entre les journalistes et autorités gouvernementales. Plusieurs hommes des médias disent être victimes d'intimidation quand ils ne se voient pas tout simplement confisquer leur matériel de travail. Dernière actualité en date, ce blackout que certains journalistes de la presse privée ont décidé de faire sur la couverture d'événements organisés par le Premier ministre Philémon Yang, ou encore la fermeture du journal Aurore, plus ordonné par le préfet du Wouri à Douala. John Lindon s'est entretenu avec Denis Kouébo, président du syndicat national des journalistes du Cameroun.
La presse camerounaise qui vient de célébrer le 3 mai, journée internationale de la presse, est en proie à une influence de plus en plus croissante du gouvernement qui tente de la contrôler. Nous vivons une situation difficile avec l'interdiction des exercices pour beaucoup de journalistes et surtout l'interdiction faite à certains médias de fonctionner, notamment le journal Aurore. Plus, il y a beaucoup de radios qui ont été fermées ces derniers temps. La presse vit l'une des heures les plus sombres de son histoire et c'est très difficile en ce moment.
Alors, vous parlez du journal Aurore Plus. Qu'est-ce qu'on reproche à son directeur de publication?
Mais le Conseil national de la communication reproche au journal Aurore Plus d'avoir, n'est-ce pas, diffamé une certaine personnalité. Par conséquent, le Conseil national de la communication a infligé une suspension de 3 mois au journal et une suspension de 6 mois à son directeur de publication. Le CNC a donc instruit la police et l'autorité préfectorale d'apposer les scellés sur les locaux d'Aurore Plus.
Alors, on signale de plus en plus d'incidents entre, justement, vous l'avez souligné, les journalistes et les autorités. Il y a notamment ce blackout que certains journalistes ont décidé de faire sur les activités du Premier ministre Philémon Yang, ou encore ces journalistes de STV dont on signale que le matériel a été confisqué. De quoi s'agit-il et puis qu'est-ce qui justifie ces tensions?
Le gouvernement de la République du Cameroun veut imposer à la presse ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit écrire. Et c'est difficile. Donc, l'exercice de notre métier est sujet de la caution au Cameroun en ce moment. Les autorités préfèrent avoir les médias gouvernementaux avec elles parce qu'elles sont au moins sûres que la ligne éditoriale va correspondre à ce que le gouvernement veut.
Alors, s'il y avait un appel à lancer à la communauté internationale ou même aux autres journalistes, ce serait lequel?
Nous avons besoin de cette liberté, nous avons besoin de cette solidarité, de cette quiétude-là pour, n'est-ce pas, que l'exercice professionnel soit de haute qualité au Cameroun.
Voilà, c'était Denis Kouébo, président du syndicat national des journalistes du Cameroun.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Et nous partons maintenant au Niger, qui traverse une période de forte chaleur. Les besoins en électricité sont d'autant plus élevés, mais rarement satisfaits en raison des délestages. Chaque année à cette période, le courant manque, les coupures sont fréquentes, elles durent parfois toute la journée. Un véritable calvaire pour les populations, comme le dit à Niamey Abdelrazak Idrissa, notre correspondant.
Situation difficile pour les habitants de la capitale nigérienne qui, en plus de la canicule, le thermomètre affiche parfois 45 degrés à l'ombre, doivent faire avec les incessantes coupures de la fourniture en électricité, dure surtout pour ceux dont les activités sont conditionnées par l'énergie électrique.
Là, depuis ce matin, on n'a pas d'électricité. Nous sommes en train de croiser les bras.
On a les clients sont là en train de nous enculer. Comme quand on les a donné un faux rendez-vous, quand bien même, ils doivent même savoir que nos activités sont liées à l'électricité. Donc, pas d'électricité, pas de travail. on ne se retrouve même pas finalement. On ne sait même pas s'il faut changer d'activité pour ne pas être lié à l'électricité. Peut-être être au grand marché pour vendre un produit qui n'a pas besoin d'électricité ou pas.
On a vraiment été décroyé. Vous voyez comment vous avez trouvé les ouvriers? Tout le monde est assis comme s'il n'y a pas le boulot. Oh, il y a le boulot, c'est à cause de l'électricité qu'on est là.
À chaque fois, il y a des coupures, Les gens en ont marre.
Et c'est vraiment une perte dans l'économie donc, du pays. C'est une perte dans l'économie des foyers.
Les coupures d'électricité bloquent les études dans les facultés à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey.
Ces coupures empêchent aux étudiants de réviser comme ils le souhaitent. Alors que nous sommes dans des périodes d'examen, dans un amphithéâtre, quand il n'y a pas un micro, les étudiants ne peuvent même pas entendre ce que l'enseignant dit. C'est ce à quoi nous assistons. Au niveau de nos laboratoires également pour les recherches.
Les tenants des officines pharmaceutiques sont aussi inquiets.
Notre souci, c'est nos centrales d'achat, c'est-à-dire là où le gros du stock de médicaments est conservé.
Pourtant, le directeur général de la société d'électricité avertit, cette année, ça va être un peu plus compliqué.
Cette année, il faut s'attendre à une situation un peu difficile, puisque au Nigeria, qui est notre principale source d'approvisionnement, compte tenu de la saison sèche, la production a chuté, passant de 6000 MW à peine 2000 MW. Et donc ils rationnent, ils ont diminué la quantité qu'ils donnent à chaque pays. Nous, des fois, ils nous donnent 20 MW sur 70. Et nous avons averti la population que nous serons amenés à faire un peu de rationnement.
Pour faire face, certains se retournent vers les groupes électrogènes ou vers les panneaux solaires. Ils sont toutefois peu nombreux au vu du coût très élevé de ces deux alternatives. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
VOA Afrique au Niger à Niamey, 24 heures sur 24 sur 102.5 FM.
Selon un rapport britannique publié aujourd'hui, l'opération Sophia et l'Union européenne, mise en place à l'été 2015, a été un échec. Patrouiller au large de la Libye pour lutter contre les passeurs de migrants aurait contribué à encourager les trafiquants à changer de stratégie et n'a réduit en rien le nombre de migrants. Maëlys Hegel a joint Flavio Di Giacomo, porte-parole de l'Organisation internationale des migrants à Rome, en Italie.
Je pense que c'est pas correct de dire que l'opération Sophia a été un échec. C'est une opération qui a été commencée il y a quelques mois désormais, qui a le but de lutter contre les passeurs. L'opération a plusieurs phases. En ce moment-là, l'opération se trouve dans la phase 2A, c'est-à-dire l'intervention dans les eaux internationales. Ils ne vont pas intervenir dans les eaux territoriales libyennes. Ça serait l'opération 2B qui va commencer seulement au moment où les gouvernements libyens, connus par la communauté internationale, appellent l'opération Sophia et UNAFOR à l'intervention dans ces eaux territoriales. Ce qu'on a pu faire maintenant, c'est pas beaucoup, car c'est normal que pour lutter contre les trafiquants ou les passeurs, il faut intervenir dans les eaux territoriales libyennes. Cependant, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est très important, car bien entendu, l'opération Sophia a participé aux opérations de sauvetage des migrants dans la mer. Ils ont sauvé à peu près 14 000 migrants. Dès qu'ils ont commencé à travailler dans la Méditerranée, ça a été efficace. Ils ont détruit beaucoup de bateaux qui ont été utilisés par les passeurs sur lesquels les migrants étaient obligés à voyager. Et donc, c'est très important aussi, car ça veut dire que probablement maintenant, les passeurs ont moins de navires de pêcheurs à disposition, ont seulement des canots gonflables. Maintenant, il faut attendre ce qui va se passer en Libye pour pouvoir vraiment lutter contre les passeurs.
Oui, mais ce qu'on dit aussi, c'est que finalement, l'opération n'a contribué qu'à encourager les trafiquants à changer de stratégie et au lieu d'utiliser ces navires, à utiliser des embarcations gonflables qui ne dissuadent pas les migrants de passer et qui sont au contraire moins sûrs pour eux.
On sait très bien que les sauvetages dans la mer n'ont pas aucun effet sur les stratégies des passeurs et surtout sur la volonté des migrants d'arriver en Europe. Les canots gonflables sont des canots très très dangereux pour les migrants. Après 2 ou 3 heures de navigation, ils ont des problèmes. Ils risquent de se écoulées, donc sont beaucoup plus dangereuses que les bateaux de pêcheurs. Il ne faut pas mélanger les choses, il ne faut pas penser qu'en intervention des opérations Sophia ou des autres bateaux internationaux qui patrouillent la Méditerranée n'ont aucun effet sur la stratégie des passeurs ou sur la volonté des migrants d'arriver en Europe. Il faut que l'Europe agisse solidairement tous ensemble contre les trafiquants, contre les passeurs et en faveur d'une migration qui soit régulière et pas irrégulière. Il ne faut pas bloquer la migration, il faut ouvrir des canaux légaux des migrations régulières pour les migrants. Il faut donner donc d'autres possibilités, car on sait très bien que l'Europe, dans les prochains 20 ou 30 ans, aura besoin des migrants. Donc il faut gérer ce phénomène qui ne va pas se terminer dans les prochains mois.
Voilà, c'était Flavio Di Giacomo, porte-parole de l'Organisation internationale des migrants à Rome, en Italie.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Le Hezbollah a annoncé la mort de son chef militaire en Syrie, Mustapha Badreddine, âgé d'environ 55 ans, est mort dans une grande explosion près de l'aéroport de Damas. La faction chiite libanaise, ennemie jurée d'Israël, dit enquêter sur l'origine de cette explosion. Qui était cet homme présenté comme un martyr par le groupe de Hassan Nasrallah? Idriss Fall a joint Janine Djalk, grand reporter au quotidien Le Rien le Jour, à Beyrouth.
Il faut savoir que Mustapha Badreddine est l'un des commandants militaires les plus importants au sein du Hezbollah. C'est celui qui a pris la relève après l'assassinat de son beau-frère Imad Mournier, qui était aussi son compagnon de route, son compagnon de combat, lequel Imad Mournier a été tué. C'est Mustapha Badreddine qui a pris la relève. C'est vraiment le socle de l'appareil militaire du Hezbollah. Il était à la tête de toutes les opérations de l'implication du Hezbollah dans les combats en Syrie.
L'Hezbollah dit qu'il a été tué par une forte explosion. Est-ce qu'on en sait plus?
Non. Jusqu'alors, le Hezbollah est en train d'enquêter pour savoir s'il s'agit d'une explosion terrestre ou s'il s'agit d'un bombardement, quasiment d'un attentat. Lors des obsèques, le numéro 2 du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem, a annoncé que l'enquête a énormément avancé et qu'ils allaient faire des révélations incessamment. Quand même, on a des doutes que ce soit une explosion dans le cadre des combats qui ont lieu près de Damas. Tout indique jusqu'à l'heure, c'est quand même une opération montée de toutes pièces qui est derrière ça. Un premier doigt d'accusation a été dirigé vers Israël.
Et si c'est Israël, qu'est-ce qui pourrait se passer après?
On ne sait pas vraiment. Ceci dit, il faut savoir aussi que le Hezbollah n'est pas un va-t'en de guerre dans le sens où, voilà, à chaque fois qu'il y a un de ses cadres qui est tué, il va déclencher une guerre. Moi, je pense que la leçon qu'il a tirée de la guerre de 2006, où il était à l'origine de la provocation de l'agression d'Israël contre le Liban, l'a fait beaucoup réfléchir, quoi. Je pense qu'il en a tiré la leçon. Ce n'est pas comme ça qu'on peut déclencher une guerre, surtout en ce moment, surtout que le Hezbollah est impliqué par-dessus la tête dans la guerre en Syrie. Donc, malgré sa toute-puissance, il y a une difficulté quand même d'ouvrir deux fronts parallèles. Déjà, ils sont par-dessus la tête en Syrie. Qu'ils pourraient faire des actions ponctuelles dans d'autres pays contre des intérêts israéliens, bon, la question, elle est légitime, mais elle est posée. On verra ce qu'ils vont dire ce soir.
Mais Badreddine avait été cité aussi dans l'attentat contre l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, non ?
Rafik Hariri, bien sûr. C'est un des cerveaux, selon le tribunal spécial pour le Liban, c'est un des 5 accusés du Hezbollah et il serait le cerveau derrière l'exécution de cet attentat d'une très grande ampleur.
Janine Jalk, grand reporter à Le Rien le Jour à Beyrouth.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Michel Joseph, à la console Glenn Hollis. Présentation Morgane Guerriec et Eric Manirakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Morgane, on maintient la conversation sur Facebook. Dites-nous ce qui domine l'actu chez vous. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui, sur 101.7 FM. Clédou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Alfaïda FM, Kaolack, Sénégal. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.